Le fait qu'il y ait plus de femmes dans ce genre de métier permettrait aussi de montrer que on n'a pas besoin de prouver notre valeur à chaque instant, parce qu'à l'heure actuelle, on doit vraiment tout le temps démontrer qu'on n'est pas là pour rien et qu'on a les capacités. Souvent, on sous-entend qu'on est là parce qu'on est une femme et qu'il n'y en a pas assez.
Genre la meuf.
Mais c'est quoi son genre?
Genre, c'est un métier de femme.
C'est pas trop son genre.
Non, mais fais pas genre.
Fais pas genre.
Machiniste est-il un métier d'homme ou de femme? Photographe, ingénieur du son, script ou danseur? Ces métiers nous questionnent sur la mixité dans les métiers du spectacle et de l'audiovisuel. À travers 20 portraits, Fais pas genre donne la parole à ces femmes et à ces hommes qui sont en minorité de genre dans leur métier.
Bon bah du coup j'ai fait une update sur le package manager et il faudrait mettre à jour le tout.
Ouais, du coup tu l'as pushé ce matin. Moi je suis disponible là si tu veux, on peut regarder ça ensemble tout à l'heure pour que tu vois s'il y a eu des problèmes ou pas dans la mise à jour.
Ça marche, on fait ça et puis comme ça après on pourra le mettre en test.
Ok cool. Je veux dire ça aux autres membres de l'équipe aussi pour qu'ils mettent à jour leur Unity avec.
Ça marche.
Cool, merci.
Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je suis avec Colline Turquin qui est programmeuse de jeux vidéo. Elle nous reçoit au studio Oliant d'Ubisoft qui est un studio de jeux vidéo. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu en quoi consiste ton métier ?
Alors le métier de programmeur, premièrement, c'est mettre en œuvre les moyens techniques pour que le jeu fonctionne. C'est la plupart du temps quand les gens parlent de jeux vidéo, ils voient l'aspect graphisme, l'aspect esthétique, mais derrière tout ça, il faut que tout marche, entre guillemets. Et donc c'est grâce à tous ces métiers de programmeur avec différentes capacités, différentes options, qu'on arrive à faire un jeu vidéo fonctionnel et sans bug.
C'est quoi le code en jeu vidéo ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Le code, en fait, c'est un langage de programmation, donc c'est un peu le même concept qu'un langage comme le français ou l'anglais, avec sa grammaire, etc. Et c'est un langage logique, donc c'est-à-dire qu'en gros, grâce à des itérations logiques, on arrive à mettre en place des systèmes entiers qui vont répondre à un besoin concret dans un jeu.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu concrètement comment tu interviens, comment ton code va intervenir sur le jeu vidéo en lui-même ?
Par exemple, l'un des projets sur lequel je travaille le plus, c'est le système de déplacement des personnages. Donc en gros, quand on clique à un endroit, le fait que le personnage ne se retrouve pas en plein milieu d'un mur ou que son comportement soit complètement aléatoire. Donc le but, c'est d'avoir toute la logique derrière. Il faut avoir tous les cas de figure en tête pour éviter qu'on se retrouve avec quelque chose de complètement anarchique.
On a écouté en début de podcast un échange avec un de tes collègues. On ne comprenait pas tout. Qu'est-ce que vous disiez concrètement ?
Donc en fait, je suis engine, programmeur et tools. Donc c'est-à-dire que mon métier concrètement, je ne m'occupe pas directement de la programmation du jeu, mais je crée des outils qui ensuite sont utilisés par les artistes et les autres personnes de l'équipe, aussi des programmeurs, pour pouvoir obtenir les résultats attendus. Ce sont des outils qui sont surtout modulaires, donc qui permettent ensuite de pouvoir être utilisés sur plusieurs jeux. Par exemple, des outils en interne qui peuvent à la fois être sur le premier jeu sur lequel on en aura l'utilité et être réutilisés un ou deux ans plus tard, avec des modifications généralement, pour un autre jeu, et ça permet la réutilisation on ne va pas à chaque fois réinventer la roue. Dans cet échange, concrètement, j'ai fait une nouvelle version pour un outil spécifique et la personne en question, utilisant cet outil, a besoin donc de mettre à jour avec ce que je viens de fournir dans la journée.
Comment ça marche justement l'organisation entre les différents métiers et compétences pour l'organisation d'un jeu vidéo ?
En ce qui me concerne, j'ai des interactions avec le reste de l'équipe pour pouvoir répondre à leurs besoins, vu que je crée des outils qui leur sont utiles. Donc la plupart du temps, je leur demande leur avis, leur retour, etc. Et je fais des modifications en fonction. Après, ça dépend également du poste du programmeur, parce que la plupart du temps, donc j'ai besoin de ces retours, etc. Mais je travaille concrètement assez seul sur le projet, sur la partie dont je suis en charge.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ? Est-ce que tu peux revenir un petit peu aussi sur ton parcours en quelques étapes clés ?
Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, quand j'étais ado déjà, j'aimais beaucoup les jeux vidéo, hein, je pense que tout le monde part de là. J'avais un jeu en ligne et je me suis amusée à créer un serveur sur ce jeu et à aller dans le code du jeu juste pour changer les textures, mettre le jeu à ma façon et visuellement comme j'avais envie. Et je me suis beaucoup amusée à faire ça. Et du coup, je me suis dit que bah, pourquoi pas en faire un métier. Donc, j'ai terminé mon bac scientifique. Le problème étant que en France, à l'époque, donc je parle de ça il y a 7 ans, il n'y avait pas vraiment d'école qui faisait directement quelque chose appliqué aux jeux vidéo. Si on voulait partir en jeux vidéo, il fallait partir en maths sup, maths spé, ingénieur, etc. Et je n'avais pas du tout envie de faire ça, même si j'aurais très bien pu le faire. Et les seules écoles en France étaient privées, donc assez chères, et je n'avais pas les moyens non plus de me le payer. Donc j'ai trouvé une école en Belgique, donc je suis partie à Namur, la haute école Albert Jacquard. Et cette école se faisait en 3 ans, une école d'infographie assez générale avec une spécialisation jeux vidéo. Là-bas, j'ai rencontré des gens vraiment merveilleux et du coup, j'ai eu envie de continuer là-dedans. Par la suite, du coup, grâce à mes contacts, j'ai réussi à aller travailler chez Sega en Angleterre. Donc, je suis partie pendant 1 an travailler à Birmingham, là où j'ai également appris énormément. Et j'ai eu la chance de travailler sur un jeu Sonic. Donc Sonic Jump et Sonic Dash, c'est des jeux mobiles, mais pour démarrer, c'était déjà chouette. Je suis arrivée à Paris, où j'ai enchaîné des startups avec des petits jeux mobiles également. Et puis j'ai été embauchée chez Ubisoft il y a maintenant 3 ans. Et voilà, aujourd'hui, je travaille sur un jeu qui a été annoncé à l'E3, toujours un jeu mobile. Mais il a été annoncé cette année, il devrait sortir, j'espère, bientôt.
Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier ?
Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est d'apprendre. Parce qu'on n'arrête pas d'apprendre, et je pense que quand on arrête d'apprendre... On est mort intellectuellement. Donc, c'est vraiment ce qui m'a motivé le plus. L'univers des jeux vidéo, en général, c'est ce qui m'a attiré pour venir dans ce métier. Mais j'y ai trouvé un autre aspect technique et avec beaucoup de challenges pour apprendre des choses passionnantes, au final.
Est-ce qu'il y a une expérience professionnelle, une réussite qui t'a particulièrement marqué, dont tu te souviens et dont tu pourrais nous parler ?
La chose dont je suis le plus fière, c'est d'avoir rencontré des personnes qui m'ont appris énormément, des personnes qui sont vraiment très fortes dans mon métier. Notamment en participant à la Unity Hack Week, j'ai été invitée via aussi le mouvement Women in Gaming World. Donc le but c'était de promouvoir également chez eux les femmes dans le domaine de la programmation. Et où en gros pendant une semaine on se retrouve avec les gens qui créent le moteur Unity, donc qui est à l'heure actuelle l'un des moteurs les plus utilisés. Et qui partagent tout leur savoir technique. Et j'ai vraiment trouvé des gens assez merveilleux. Et je pense qu'au final, la plus grande réussite, c'est le côté humain.
C'est une très belle transition que tu me permets, puisque selon le Syndicat national du jeu vidéo, il y a 14% de femmes dans les studios de développement en 2018. Et dans le jeu vidéo, c'est surtout le métier de développeur qui est le plus recherché par les studios. Tu es d'ailleurs une des seules femmes de ton équipe. Comment toi, tu vis cette absence de mixité au quotidien ?
Alors, je vais parler vraiment personnellement. J'ai pas vraiment de problème avec ça, même si bien sûr ce serait chouette d'avoir quelques filles en plus. Mais à l'heure actuelle, je suis toujours tombée sur des personnes plutôt bienveillantes envers moi, de manière générale. Ayant 2 grands frères qui sont quand même assez âgés par rapport à moi, j'ai toujours été dans ce genre d'univers et je retrouve un peu ça, c'est-à-dire que les gens sont généralement, oui, bienveillants et veulent en gros faire bien avec vous et donc ça marche.
C'est quoi l'ambiance dans un studio d'animation, un studio de jeux vidéo ?
C'est une ambiance très familiale quand même. Généralement, on rigole bien. Ouais, on rigole bien la plupart du temps.
Tu fais partie de l'association Women in Games. C'est une association professionnelle œuvrant pour la mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France. Pourquoi avoir rejoint ce collectif ?
Alors avant que l'association Women in Games soit créée, c'était surtout un mouvement. Un mouvement qui a émergé parce qu'on s'est rendu compte que dans l'industrie du jeu vidéo, les femmes n'étaient pas assez représentées et que au final, dans toutes les prises de décision, c'était du coup pas du tout représentatif du fait qu'il y ait de plus en plus de femmes actuellement qui jouent aux jeux vidéo. Donc dans la prise de décision de la création des jeux, ça manquait. Donc il y a ce mouvement qui a émergé, je pense, aux États-Unis, il me semble, si je me trompe pas. Il y a beaucoup d'associations nationales qui ont été créées. Et du coup, j'ai rejoint ce mouvement par la force des choses en étant invitée d'ailleurs à la Unity Hack Week. Et en revenant de cet événement, je me suis dit pourquoi pas soutenir le mouvement français. Et je me suis donc engagée auprès d'eux afin de faire en sorte que ce mouvement créé par des femmes, pour des femmes, même si aujourd'hui beaucoup d'hommes nous rejoignent, puisse prendre plus d'ampleur.
Pourquoi c'est important pour toi d'être associée à ce mouvement-là ?
Le fait qu'il y ait plus de femmes dans ce genre de métier permettrait aussi de montrer qu'on n'a pas besoin de prouver notre valeur à chaque instant, parce qu'à l'heure actuelle, on doit vraiment tout le temps démontrer qu'on n'est pas là pour rien et qu'on a les capacités. Souvent, on sous-entend qu'on est là parce qu'on est une femme et qu'il n'y en a pas assez, ou alors on est là, on doit plus prouver qu'on est capable.
Toi, tu l'as ressenti dans ton parcours professionnel ?
Oui, je l'ai pas mal ressenti. À l'heure actuelle, chez Ubisoft, non. Mais il y a d'autres entreprises où j'avais le regard très paternaliste de mes managers. Et c'est vrai que à terme, c'est un peu borderline. L'anecdote qui me revient le plus souvent, c'est quand j'étais chez Sega. Ça reste quelque chose de très mignon, on va dire. Mais collègues, en gros, quand ils parlaient de nous dans leur ensemble, nous appelaient « guys ». Donc, ils m'ont dit en rigolant que j'étais « one of the guys », donc l'un des hommes présents. Donc, ils m'ont vraiment mélangé sans aspect de genre. Et c'est vrai que c'est dommage de se dire qu'on est obligé de presque oublier notre féminité des fois.
Quel levier t'as été chercher pour faire face à ces réactions, remarques ou sentiments que t'as pu percevoir ?
Je pense qu'il faut quand même avoir assez de caractère pour pouvoir leur répondre, leur montrer qu'on est là, qu'on est peut-être une femme, mais on est tout aussi capable, voire même plus pour certains. Oui, il faut vraiment avoir assez de caractère. Les personnes timides vont avoir beaucoup plus de mal dans ce genre d'environnement.
Selon toi, quelles sont les compétences indispensables pour ce métier ? Est-ce que c'est un métier déjà qui est accessible à tous ?
C'est un métier accessible à tous. Je vois pas pourquoi un homme serait plus qualifié qu'une femme. Il faut surtout avoir une bonne logique mathématique. Pas forcément être très très bon en maths, mais quand même avoir une logique technique et pas mal de curiosité, parce qu'au final c'est un métier qui s'apprend énormément par nous-mêmes. Ça s'apprend pas que dans les bouquins, faut aussi pratiquer. Donc je vois pas pourquoi une femme serait moins qualifiée, non.
Quel conseil tu donnerais à une femme qui aimerait se lancer dans cette voie ?
Le premier conseil que je donnerais, c'est de pas lâcher. Si c'est vraiment ce qu'elle veut faire, il faut qu'elle y aille. Après, c'est sûr, ça va être compliqué. Ce sera 90% masculin, mais elle aura peut-être de la chance avec les années qui viennent de voir de plus en plus de filles.
Petite question décalée pour finir, qui est-ce qui t'a donné l'amour des jeux vidéo, plutôt Mario ou Sonic ?
Bah moi j'ai grandi avec mes deux grands frères qui jouaient sur la Mega Drive à Sonic, donc j'ai vu et entendu ça pendant des années, donc clairement Sonic.
Très bien, merci beaucoup.
Merci à vous, bonne journée.
C'est la fin de cet épisode. Pour retrouver l'intégralité des portraits en podcast, photo ou vidéo, rendez-vous sur notre site dédié.